En Marge, une émission qui met en lumière des livres trop peu connus. Vaughan est mort hier dans son dernier accident, le temps que dura notre amitié. Il avait répété sa mort en de multiples collisions, mais celle-là fut la seule vraie. Lancé vers la limousine de l'actrice, sa voiture a franchi le garde-corps du toboggan de l'aéroport de Londres et plongea à travers le toit d'un car rempli de voyageurs. Les corps broyés en grappes des touristes, comme une hémorragie de soleil, étaient toujours plaqués sur les sièges de vinyle lorsque je me frayais un chemin parmi les techniciens de la police une heure plus tard. Cramponnée au bras de son chauffeur, l'actrice Elizabeth Taylor, avec qui Vaughan avait depuis tant de mois rêvé de mourir, se tenait à l'écart sous les feux tournants de l'ambulance. Quand je me suis penchée au-dessus de Vaughan, elle a porté une main gantée à sa gorge. Dans cet incipit saisissant, Ballard nous plonge dans le monde violent et dérangeant de son roman Crash, paru en 1974 et adapté au cinéma par David Cronenberg en 1996. Peut-être avez-vous entendu parler de ce film sulfureux qui a fait trembler le festival de Cannes à l'époque, avec bon nombre de gens qui sont sortis de la salle car ils affirmaient être choqués de cette fusion violente entre le corps et la tôle décrit lors de scènes d'accidents de voiture mêlées à des scènes d'amour du moins explicites. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce roman de science-fiction assez particulier que l'auteur avait qualifié comme le premier roman pornographique fondé sur la technologie, une forme romanesque qui arriverait à dénoncer la manipulation et l'exploitation qu'on exerce de manière impitoyable sur autrui et qui aurait un rôle prémonitoire. Je le cite donc dans la préface de la version française de l'édition de Noël, une mise en garde contre ce monde brutal aux lueurs criardes qui nous sollicite de façon toujours plus pressante en marge du paysage technologique.
Alors voilà, bon, c'est une émission spéciale car nous avons un invité qui nous a proposé de découvrir Crash. Pour ce deuxième épisode, qui devait traiter donc des thèmes du corps, du mouvement et des sensations, ce sera donc une émission à trois voix, donc ils vont exprimer leur impression, leur avis sur cette œuvre. Choquante, selon certaines personnes, marquante et percutante. Donc je vous laisse la parole pour vous présenter à nos auditeurs.
Bonjour à tous et à toutes. Jacques Brunet-Georget, je suis professeur de lettres en classe préparatoire littéraire Hippocagne-Cagne à Pau. Et j'ai également une activité de danseur-interprète. Je travaille en ce moment à Bordeaux avec une compagnie. Et j'ai proposé aujourd'hui d'échanger sur ce livre incroyable de Ballard, Crash, que j'ai connu d'abord à partir du film de Cronenberg, et qui est tout à fait fascinant et choquant. Le film a été important pour moi dans mon parcours personnel et intellectuel, et la découverte du livre un peu plus tardive m'a aussi beaucoup remué, donc j'avais envie d'en parler, d'échanger avec vous aujourd'hui.
Donc avec notre invité, nous allons voir Crash comme une œuvre intéressante à étudier, aussi une œuvre qui nous a abîmés et qui nous a animés à la fois, et un roman de science-fiction qui offre une nouvelle vision de la technologie, donc peut-être un roman qui est plus actuel qu'on ne le croit. Donc tout d'abord, on trouvait que c'était peut-être pertinent de vous demander... parce que dans nos différents échanges, vous nous avez dit que Crash est une œuvre qui vous a marqué et qui a inspiré votre thèse. Et on aimerait en savoir un peu plus sur cette inspiration. Donc pourquoi avoir écrit sur cette thématique je crois que c'était les modifications du corps.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait une thèse de doctorat il y a quelques années sur les modifications du corps. Alors les modifications du corps, c'était essentiellement les tatouages, les scarifications, les piercing et puis tous les phénomènes qu'offrait l'art et l'art contemporain, donc par exemple body art, les happenings, performance et également certains genres de cinéma comme le cinéma très corporel de David Cronenberg. Et j'avais souhaité interroger cet objet qui était un peu inattendu en philosophie, puisqu'on sait que la philosophie depuis Platon a du mal avec le corps et elle a du mal avec le mouvement, donc le corps en mouvement, le corps modifié, c'était un défi à adresser à la philosophie. Et parmi les différents supports qui étaient à ma disposition, j'ai rencontré ce film. Alors, sous un angle particulier, il faut dire à nos auditeurs, à nos auditrices, que dans Crash, le corps est modifié au sens où Il est explosé, pulvérisé, meurtri, blessé, mais il est aussi modifié après, parce qu'il est, il y a des réparations par la médecine, par la chirurgie, par des prothèses, et il y a un certain nombre de personnages, notamment une jeune femme qui s'appelle Gabrielle, qui ont des prothèses, des espèces d'appareillages métalliques, médico-métalliques qui enchâssent le corps et qui viennent se faire se fondre avec le corps. Et ça, ça m'avait beaucoup intéressé. Et donc je m'étais plongé dans Cronenberg, dans ce film, dans un autre aussi qui s'appelle Existence, qui est sur les jeux vidéo, la réalité numérique. Alors dans ma thèse, j'ai essentiellement parler d'Existence, je n'ai au final pas parlé de Crash, mais j'ai par ailleurs écrit sur Crash. Et les questions que ce film et que le livre ensuite m'a adressé continuent à m'habiter et à me hanter. Le propos de ma thèse, pour faire très court, c'était partir de phénomènes très marginaux, bizarres, étranges, en marge. parfois pathologiques, enfin considérés comme pathologiques, et se dire finalement, si on les prend au sérieux, qu'est-ce qu'ils nous disent de notre rapport à l'identité, au désir aujourd'hui, et finalement, est-ce qu'on ne peut pas s'en inspirer, nous tous et nous toutes, pour renouveler notre rapport au corps, au désir, à l'identité, vivre d'autres expériences, traverser l'existence autrement, peut-être en dehors des sentiers battus, en dehors des oppositions entre normes et pathologies. Alors, notre époque, là, les années 2020 vont beaucoup dans ce sens. Voilà, elles ébranlent beaucoup les distinctions. Et je trouve que, du coup, elles invitent à se repencher sur des textes comme ça. Donc voilà la place de du film et du livre, de cette œuvre, ces deux œuvres dans ma réflexion, dans mon parcours en cours.
Ok, très intéressant. Est-ce que maintenant, vous voudriez parler de ce qui vous a animé dans cette œuvre, pour faire un jeu de mots ?
Oui. Oui, c'est vrai que quand on avait parlé, par exemple, de nos impressions avec Marianne, c'est vrai que le terme qu'elle avait utilisé pour décrire nos impressions, c'était abîmer. C'est vrai que c'est une œuvre qui abîme déjà le jeu de mots justement avec l'accident et sur le fait que oui, c'était une lecture qui était quand même assez spéciale pour nous deux, je pense, même si on n'a pas forcément le même avis sur le livre, on n'a pas forcément la même sensibilité, mais c'est vrai que c'est une œuvre qui, je pense, nous abîme, même peut-être intellectuellement, mais peut-être même physiquement, enfin en tout cas... Si je devais commencer peut-être sur mon avis, l'avis qui fâche, hein, parce que bon, je pense que le mien est peut-être celui qui diverge le plus de vos deux avis. Donc peut-être que je vais partir sur le fait que c'est une œuvre choquante, justement, une œuvre qui nous abîme. D'ailleurs, je pense que c'est un postulat, que c'est un livre perturbant. Parce que même Cronenberg a été choqué lorsqu'il a lu le livre, alors que bon, il a quand même fait des films assez étranges. Par exemple, je pense à La Mouche, où il y a aussi l'idée de la transformation du corps avec... Non, tu connais pas le film Marianne au vu de ta tête. Mais non, il a La Mouche, en gros, c'est une expérience de téléportation où un homme rentre dans une cabine de téléportation et une mouche rentre dans cette cabine et son ADN est mélangé à celui de la mouche et tu vois, en fait, au fur et à mesure, la transformation de l'homme en mouche et c'est assez perturbant comme transformation, surtout à la fin, pour ceux qui connaissent. Vous voyez très bien l'image de la bête et c'est assez perturbant. Quoi. Oui, exactement. Okay. Donc, en fait, pour moi, Crash, ce qui a été choquant pour moi, mais aussi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le style en fait de Ballard, qui utilise des mots crus, scientifiques, même un vocabulaire très technique pour décrire l'accident et l'acte sexuel, où en fait tout est décrit. Il n'y a pas beaucoup de moments de répit pour le lecteur. Enfin, en tout cas, moi, j'avais une espèce de constant malaise quand je l'avais lu, parce que oui, on est témoin d'une sorte de violence exacerbée. Et je pense que j'ai rarement ressenti un malaise lors de lecture d'un roman, surtout que je trouvais que le roman en fait n'avançait pas vraiment dans la narration, car il y a beaucoup de répétitions, même une sorte d'accumulation ou un inventaire d'accidents, de blessures qui est assez dérangeant. Et j'ai un peu, oui, vécu cette lecture comme un choc, mais sûrement l'effet voulu par l'auteur d'ailleurs. Ou pour vraiment comprendre le fond de l'œuvre, j'ai dû un peu me remettre de cette lecture car tout était saturé par la violence, la déformation choquante des corps, la sexualité exacerbée, très explicite, très crue, si bien que j'avais pas, en fait, je pense sur le moment, les moyens de bien tout comprendre et lors de la lecture. Voilà, ouais. C'est ça. Comme si je devais me remettre du choc de l'accident, en fait, en quelque sorte. Et c'est seulement donc après, quand j'ai digéré ma lecture, que j'ai un peu plus compris la portée politique de l'œuvre et qui, en fait, qui est très intéressante, mais traitée de manière très, très originale, si je veux dire.
Est-ce que pour vous, il y a une portée politique dans cette œuvre ?
Alors, quand vous avez présenté l'œuvre, vous avez évoqué le fait que l'œuvre pouvait dénoncer une certaine emprise des normes technologiques, je crois. Alors, moi, je ne crois pas du tout.
Mais quand j'ai cité ça, c'est dans la préface où l'auteur s'exprime, en tout cas dans la préface de l'édition française, où apparemment, l'utilisation de ce genre pornographique, en fait, ça permettra, en fait, de dénoncer, justement, enfin, j'avais repris un petit peu ces termes, de dénoncer l'usage de la technologie. Après, peut-être que c'est pas quelque chose qu'il a réussi à faire.
Déjà, juste sur le terme pornographique, on peut parler de pornographie, beaucoup de gens ont parlé, et pour le film, je pense qu'il y a un détournement du genre pornographique, puisque le genre pornographique, ça se définit par la mise en avant, par exemple, dans un gros plan au cinéma, de parties génitales ou de sexe. Or, dans Crash, la sexualité qui est omniprésente, elle n'est pas centrée autour de la génitalité.
C'est vrai.
Ça sort complètement. Alors, pour le coup, c'est politique. Oui. Ça sort complètement des codes de la pornographie, surtout à l'époque.
Oui, je suis d'accord.
De quelque chose de très, très normé, très hétéronormé, centré autour du phallus, de la pénétration. Il y a des scènes de pénétration, mais elles sont... C'est facultatif et ça suscite même pas forcément l'intérêt des personnages. Je crois que de ce point de vue, il y a un des aspects politiques de Crash, c'est le détournement, la subversion de la pornographie et de la représentation des corps. Enfin, il faut juste préciser, pour que ce soit clair pour tout le monde, que le sujet de Crash, c'est des crashs, c'est-à-dire des accidents de voiture à répétition, et il y a une petite communauté de personnages qui vont expérimenter une nouvelle sexualité inspirée et étroitement liée à ces accidents de voiture, qui ne peut en fait arriver que à travers les accidents de voiture, et ça se passe autour d'une espèce de gourou, d'initiateur, Vaughan, qui est le maître d'une nouvelle sexualité, et qui n'est, et en même temps qui ne sont pas représentés une idéologie ou quelque chose comme ça. Il les invite à des nouvelles expériences. Ça, c'est politique aussi, parce qu'il y a un rapport à la transgression, à l'idée d'aller au bout, du bout de l'intensité d'une expérience, vouloir ne pas se contenter de désirs fades ou mièvres. C'est aller au bout du bout de l'expérience du désir, même si c'est, apparemment pour ces personnages, toujours plus ou moins frustrant. Mais il y a quelque chose qui est presque éthique. Enfin, ça peut sembler bizarre, mais si on accepte la logique de l'œuvre, c'est des personnages qui sont engagés radicalement pour aller au bout du bout de la logique de leur désir, même si elle est complètement perverse ou pathologique pour les gens. Ça, pour moi, c'est politique.
Ok, parce que j'entendais aussi, point de vue politique, quand à un moment, Vaughan, dans le film, dit à James, ça choque personne, donc il faut aller encore plus loin. Pour choquer. Donc en fait, le but, c'est pas forcément aussi un but intime, c'est aussi une quête personnelle de projection, etc.
Oui.
Mais c'est aussi, d'un point de vue extérieur et collectif, d'étendre ces choses-là aussi.
Oui, parce qu'il y a aussi une dimension spectaculaire. Il rejoue des accidents mythiques de voiture, comme l'accident de James Dean, de Jane Mansfield. Et c'est public, c'est spectacularisé. Donc on convoque le regard de l'autre aussi, c'est vrai. Donc c'est pas juste une quête intime, ou en tout cas cette quête intime, elle est indissociable du regard de l'autre et d'un rapport au spectacle, de ce que les autres peuvent voir, ne peuvent plus arriver à regarder.
Mais c'est justement quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans l'œuvre, c'est dans ce qui m'avait animé justement, c'est le fait que ça soit comme, enfin j'appelais ça comme ça, mais une théâtralisation des fantasmes aussi, et de le fait que ça soit toujours de la mise en scène, toujours dès les premières pages, quand il dit par exemple le tableau que nous formions, il y a plein de pages comme ça où la scène est restée un bref moment en suspens, enfin il y a plein de passages où ça se voit que c'est juste le fantasme d'une projection de désir, et que les personnes justement voilà, c'est juste costume, maquillage, enfin c'est ça, c'est la mise en scène, quoi. Enfin moi c'est ça qui m'a plu aussi dans le film.
Oui, il y a toute une thématique du spectacle où oui, il y a l'omniprésence des caméras, où ils prennent en photo les accidents, oui. Ils les filment. Mmh. Et en fait, je pense que il y a en fait peut-être pour l'aspect technologique, il y a la médiatisation qui est au centre de l'œuvre. Par exemple, moi, ce qui me faisait penser, par exemple, quand on va en concert, il y a beaucoup de gens, au lieu de regarder le concert de leurs yeux, ils regardent à travers leur téléphone. Et il y a eu beaucoup de passages dans Crash, par exemple, où il y a James Ballard qui regarde par le rétroviseur Catherine et Vaughan couchés ensemble sur la banquette arrière. En fait, on voit qu'il y a une espèce de projection, en fait, de soi à travers... l'autre, ou le fait de ne pas assumer faire l'acte soi-même, mais de préférer le regarder avec, je sais pas, une espèce de distance.
Et inversement, Vaughan qui suit James et qui va photographier ses ébats dans les voitures, et qui en fait vraiment un projet. Il a une pièce où il collecte toutes les photographies, soit des ébats sexuels, soit des accidents, soit des corps, et c'est quelque chose d'important, d'aussi important que vivre l'expérience. Alors, est-ce qu'on doit rapporter ça à une critique de la société du spectacle ? Je ne sais pas.
Non, ça pourrait être possible.
Je ne sais pas, parce que j'avais lu, une théorie de l'homme sans regard de Bertrand Roubi qui posait cette thèse autour de ça, où effectivement, il y a une dénonciation du règne du spectacle où on ne vit plus les choses par nous-mêmes, mais on préfère regarder les autres le faire à notre place. Peut-être c'est le fait de ne pas pas assumer ses propres actes, peut-être.
Mais du coup, le roman propose à la place des expériences radicales, aller au bout de l'expérience, y compris jusque dans la mort.
Oui.
Ce que disait, pour reprendre l'expression de Georges Bataille, l'approbation de la vie jusque dans la mort. Il y a quelque chose comme ça.
Après, sur ça, avec Nessa, on a eu des avis différents.
C'est vrai.
Par rapport notamment dans le film, la fin est différente avec le livre. Mais,
peut-être on pourra revenir et oui. L'expliquer peut-être aux auditeurs, aux auditrices.
sur les différentes fins de oui. Alors les différentes fins, donc dans le film on assiste donc comment expliquer ça, accident de Catherine, donc qui est la femme de James, et qui est aussi poursuivie ça par James, et c'est oui. aussi là moment de dernier crash,
oui.
Et donc on voit
poursuivi dernière... en voiture, hein, c'est
oui, oui, voilà. Oui, en voiture, oui,
un motif traditionnel du cinéma qui est la course poursuite,
oui.
En voiture, mais complètement détourné aussi, et il poursuit sa femme comme elle a été poursuivie avant par Vaughan qui est mort, et lui reprend le relais, en fait prend le relais, il la poursuit,
et après donc dernier crash avec dernier acte sexuel du film, et on voit Catherine complètement démunie, et on voit qu'elle pleure au même moment, et donc nous on se demande, enfin on pourrait se demander, mais c'est tellement bizarre, enfin acte sexuel, elle pleure, il y a une voiture sur elle, enfin je veux dire ça n'a aucun sens,
la voiture en train de fumer cabossée, oui, à côté, vraiment. James qui l'enlace et qui tente de la pénétrer, je crois,
oui, ça, oui. C'est ça,
et qui lui dit la prochaine fois,
maybe the next one.
Et
donc ça n'est pas une fin.
Et c'est ça. Et en fait, moi, je l'ai analysé dans le sens où, pour moi, c'est pas la mort que Catherine veut atteindre, c'est justement qu'elle est tellement animée par ces fantasmes de cette petite communauté qui l'entoure, qu'elle aussi, elle voudrait peut-être savoir ce que ça fait que d'être déformée, remodelée. Et donc, en fait, pour moi, c'est pas la mort qu'elle cherche à atteindre, c'est plus ce désir d'être déformée par la technologie. Et voilà. Alors que Nessa, toi, c'était pas ça que t'as...
Bah, alors peut-être que le personnage de Catherine, qui est pas forcément totalement entré dans le fantasme, je pense qu'elle était dans une phase de transition quand elle a rencontré voilà, tout ce petit groupe addict assez crash. Moi, ce que... Enfin, plutôt la pulsion meurtrière, je pense qu'on la trouve surtout chez Vaughan, parce que bah, le livre commence par sa mort, où il a un accident de voiture. Enfin, il essaye justement de reproduire des accidents de voiture. Il voulait absolument faire un accident de voiture avec l'actrice Taylor. Et il trouve la mort là-dedans. Et à la fin du livre, justement... Il y a ce groupe qui se recueille à la fourrière.
Dans une fourrière,
où ils retrouvent la voiture accidentée de Vaughan. Et quand ils observent la voiture, mais ça fait comme presque une cérémonie, un hommage. Il y a comme la présence de Vaughan dans la voiture, où ils décrivent que voilà, on a l'impression qu'on voit la forme de ses fesses quand il s'assoit sur la banquette, etc. Où il y a encore l'impact. On peut imaginer son corps dans la voiture. Et j'ai l'impression que par cette mort, il a réussi à avoir l'identité suprême qu'il voulait chercher à travers ses accidents, le fait de se retrouver entièrement dans la voiture.
Tout à fait. La fusion de la chair et du métal, elle est réalisée. Puis c'est une espèce de rituel funéraire. Et c'est une sorte de fourrière mémoriale où tout d'un coup émerge le but ultime de la fusion du corps et de la machine, et on a vraiment l'idée d'un point d'aboutissement, et que les personnages vont se recueillir autour de ce corps finalement presque divinisé. Enfin, il est absent, mais il est inscrit dans la machine. Enfin, et donc c'est complètement différent du film. Et moi, j'ai préféré le dénouement de David Cronenberg, parce que j'ai l'impression que la quête continue. C'est peut-être pas la même quête pour tout le monde, pour James, pour comme vous dites, pour Catherine. Qu'est-ce qu'il cherche? Ça a à voir avec la mort, mais pas seulement. Et je crois qu'il y a vraiment l'idée de cheminer pour avoir l'expérience la plus authentique du désir, retrouver l'émotion d'une explosion initiale, la recréer par des conditions artificielles, même si c'est jamais tout à fait ça, et continuer et chercher quelque chose qui a peut-être aussi à voir avec un cheminement spirituel. Mais moi, la fin du livre m'a mis un peu mal à l'aise, parce que j'avais l'impression d'avoir une... Ça y est, alors c'était vraiment un gourou.
Oui, c'est vrai.
Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces personnages? On va rester dans la mémoire du gourou? Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est vrai que j'ai préféré la non-fin du film.
C'est vrai que quand on avait lu la fin du livre, on était presque déçus, quoi. Ça finit un peu platement, alors que tout le livre, c'est
tellement tout le temps à la même hauteur qu'il n'y a même pas de chute.
Oui.
Alors, quand même, une petite nuance, je relis juste les dernières lignes du livre. Alors, on peut dire que c'est un spoiler, mais en fait, le livre n'est pas linéaire.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est une expérience avec une succession de scènes. Et on peut le commencer presque par n'importe quel bout. Cependant, le flot incessant de la circulation progresse sur le toboggan. Les avions quittent les pistes de l'aéroport. Ils emportent ce qui survit de la semence de Vaughan vers les tableaux de bord et les calandres de milliers de voitures, à l'instant qu'elles s'écrasent, vers les jambes déjetées de millions de passagers. On a l'impression que les avions prennent le relais des voitures, dans une espèce de pollinisation, tout d'un coup... Les avions vont ensemencer le monde à partir des restes de Vaughan. Donc tout d'un coup, c'est une autre technologie qui prend le relais.
Oui, il y a aussi une forme de transcendance par rapport à Vaughan, quand aussi il dit les premières constellations d'un nouveau zodiaque de nos esprits. C'est très fort, c'est pour montrer que oui, ça a été un gourou, mais qu'il restera quand même aussi...
Et ça, c'est un petit peu gênant, parce que dès qu'il y a transcendance, est-ce que ça... C'est l'idée du dieu, quoi. Enfin, on invente un dieu, est-ce que ça bloque pas le désir, l'expérience? Moi, c'est ça qui m'a un petit peu déçu aussi dans le livre.
Mais dans le sens où j'ai l'impression que c'était une sorte de formulation d'un hubris, alors que justement, c'est l'homme qui veut dépasser le dieu, qui veut plus être dépendant d'un dieu pour le surpasser. Et là, avec sa... pas une métamorphose, mais sa fusion avec, avec la machine le permettrait, alors que là, le gourou, bah, ça veut dire qu'ils ne parviendront, ne parviendront jamais à le dépasser.
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui, à mon sens, arrête le désir, et donc, c'est un point de un crash brutal à, oui, à la fin, un crash sans la force explosive de l'accident, alors que le film... Et c'est vrai que la dernière scène est la différence essentielle entre le livre et le film, du coup, amène une autre lecture.
Mais en fait, disons que celle du livre, est, même si les deux sont ouvertes, elle reste quand même beaucoup plus ouverte, celle du livre, à mon sens. Enfin, parce qu'on sait très bien dans le film que dans les deux, de toute façon, ça va sûrement continuer. On s'en doute, mais au moins on peut dans le film on peut se raccrocher à l'idée au moins à un personnage, à Catherine, qui peut-être va continuer jusqu'à ce qu'elle soit déformée ou jusqu'à ce qu'il y ait un autre point d'impact et encore un, et alors que la fin, oui, c'est peut-être plus impersonnel et ça cherche plus à ce que tout le monde réfléchisse sur ça justement aussi, voilà, petite petite vision. Est-ce que t'as d'autres choses qui t'ont...
mais c'est vrai que oui, j'avais posé un petit peu ma critique sur le fait que oui, sur ma sensibilité, ça m'avait heurté sur le style. Après, le film, il est plus simple peut-être à voir comparé à une lecture du livre, parce que je pense que dans l'industrie d'Hollywood, on essaie quand même de censurer. Un petit peu, sur les...
Épuré,
oui, voilà.
C'est moins obscène, oui. C'est moins débordant que le livre.
Alors que oui, sur le livre, on ne se passe pas de détails. Mais si on peut dire...
Tout de même, sur l'écriture, parce que vous parlez d'écriture et du style, il y a quand même des points communs entre le roman et le film, sur lequel on pourrait dire deux mots. C'est la façon de décrire la voiture. Mm. Dans le livre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails techniques. On a les chromes, les cadrans lumineux. Parfois, moi, je ne connaissais pas tout le vocabulaire. Pas suffisamment passionné d'automobile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la voiture est décomposée et recomposée en permanence. Il y a tout un tas de... C'est fragmenté comme un puzzle. Et le puzzle se recompose différemment à chaque page. Donc, c'est une façon d'intégrer dans l'écriture le phénomène du crash, de l'accident. C'est-à-dire accidenter même la description de la voiture pour recomposer sans cesse et mélanger le vocabulaire de la machine et du métal avec le vocabulaire du corps pour créer des connexions complètement inédites. Ça, c'est peut-être pour en donner des exemples tout à l'heure, de fusion permanente, décomposition, recomposition et des fusions permanentes dans l'écriture avec le corps et la peau et la machine. Et dans le film, je trouve que Cronenberg a repris ça parce qu'il a repris des aspects déjà très cinématographiques de l'écriture de Ballard. Alors j'ai en tête un passage que j'aime beaucoup, j'en ai parlé il y a quelques minutes, c'est un épisode dans une station de lavage automatique. Donc il y a James et à l'arrière Vaughan, oui, et Catherine qui vont dans cette station de lavage avec les rouleaux. On connaît tous ça dans les stations de supermarché. Et bon, il y a Vaughan et Catherine ont un rapport sexuel à l'arrière. Et la façon dont Cronenberg filme est très intéressante. Pour dire, par exemple, donner deux exemples. Au début, on voit le toit de la voiture qui se referme vers le bas. Au même instant, on voit la vitre qui remonte. Et le plan d'après, on voit Catherine qui remonte son pull et qui, juste après, descend le bonnet de son soutien-gorge. Et la scène est faite que de mouvements comme ça. Ça monte, ça descend, avant, arrière, que de tensions très rythmiques. Et en même temps, vous avez le mouvement des rouleaux qui crée comme une musique. Et c'est une manière, je trouve, de transposer les procédés d'écriture du roman. C'est-à-dire que la voiture n'est pas un objet ou un lieu, c'est une zone de tension extrêmement dynamique. Et c'est là où se trouve le désir, en fait, dans ces mouvements contradictoires qui sont organisés dans un rythme. Et ça, c'est un point commun, je trouve, très fort entre l'écriture du roman et l'écriture cinématographique de Cronenberg.
Mais d'ailleurs, oui, c'est ce qu'on s'était dit avec Nessa, que souvent, la plupart du temps, c'était ce va-et-vient incessant entre voiture qui devient homme qui devient voiture. Et pareil, j'ai retrouvé un passage là, vers la fin du roman, je vais vous lire, le ronron du système de transmission se propageait le long de mes jambes et de ma colonne vertébrale, résonnait à l'intérieur de mon crâne. C'était comme si j'avais moi-même pris la place de l'arbre de transmission, mes mains devenant les bielles de poussée et mes jambes s'animant du mouvement de rotation qui allait propulser le véhicule. Genre là, c'était vraiment à la fin où aussi on voyait que... En fait, c'est comme une montée. Au final, au début, il y a l'impact où il va commencer à avoir ce goût-là, ce plaisir pour ces crashs-là. Après, tout le milieu se concentre sur cette évolution-là. Et la fin, on arrive quand même à l'acmé où il y a une forme d'union entre les deux. Et voilà.
Et qui est réalisé vraiment dans le style. Voilà. Oui. Un style très, très personnel et original.
Ouais, je pense que oui, c'était le style qui m'a eu le plus marqué, parce que même si c'est un sujet qui n'est pas simple, je trouve que justement il l'a abordé avec simplicité par ce style voilà très technique, mais en même temps qui est très rythmé, qui en fait nous emmène en fait dans ses fantasmes, ses dérives, tout ça. Et je trouve que justement ça nous emmène bien, même si ça nous emmène de manière un peu voilà, ça nous bouscule un petit peu quoi, mais
Ça nous abîme,
tout à fait. Mais quand même, c'est intéressant de voir ce point de vue-là sur comment aborder justement cette idée d'un homme-machine, parce qu'on avait l'habitude avant, je pense, de l'animal-machine. Et là, on est sur...
Cyborg.
Oui, voilà. Un cyborg. Tout à fait. Oui, ce qu'on retrouve surtout dans le thème de la science-fiction. On retrouve surtout, je pense à Terminator, Robocop, etc. On a cette thématique-là où on a un homme-robot. Là, c'est plus vraiment un homme-robot. Il n'y a pas forcément cette technique. Parce que le robot, il est presque humanoïde en ce sens-là. Il ressemble un petit peu à l'homme quand on a un peu cet imaginaire d'hommes amputés avec des nouveaux membres qui ressemblent quand même un petit peu aux membres humains. Là, on est quand même sur la fusion de choses, enfin, un humain et une voiture qui ne ressemblent pas vraiment.
Il n'y a plus de rapport de ressemblance ou d'imitation. C'est la technologie qui transforme la sexualité et le désir qui transforme la machine. Et c'est que des échanges comme ça qui sont en dehors de toute ressemblance. Mmh. De toute imitation de ceci ou de cela, et donc c'est l'inconnu, c'est aller vers l'inconnu.
C'est vrai. Et Nessa, je suis en train de me demander, est-ce que aussi cette lecture-là est à bousculer dans le sens où on est sans cesse dans les extrêmes?
Oui, ah oui, clairement.
Qu'on est tout le temps, en fait, c'est la mort et l'amour en même temps, tu vois, c'est tout le temps des extrêmes, une radicalité tout le temps.
Oui, parce qu'on voit que les personnages sont toujours en quête d'expériences extrêmes, et même quand ils parviennent pas à avoir cette expérience, ils sont extrêmement frustrés. Et ça, c'est vrai que des fois on n'arrive pas forcément à comprendre cette extrémité. Mais oui, c'est vrai, enfin, quand je disais tout à l'heure que c'était une sorte de malaise constant, en fait, c'était plutôt pour dire qu'on n'avait jamais de répit sur les déformations, la violence décrite de manière crue. Hein.
Enfin, moi, justement, c'est quelque chose qui m'a plu dans cette œuvre. C'est que vraiment, généralement, les livres où ça montre vraiment des extrêmes, où on ressent vraiment quelque chose comme ça, pour moi, c'est les meilleurs livres, dans le sens où... Enfin, là, ce que j'ai aimé, c'est que d'abord, on a la théâtralisation des fantasmes, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, aussi le fait qu'on ait une espèce d'édification d'un tableau de concupiscence un peu horrifique aussi. Et ça, c'était vraiment intéressant à analyser. Et aussi, comme j'ai dit, moi, ce qui m'a plu, c'est la montée de l'acmé. Et après, enfin, on sait plus trop où on va. Et aussi, les deux extrêmes, hyper intéressants. Mais aussi, je me suis posé la question si aussi cette œuvre, c'était pas fait pour montrer un espèce de dépassement des standards de la société. Par exemple, quand il dit que les crashs, c'est pas destructeur, mais c'est fécondateur, par exemple, d'une énergie sexuelle aussi.
Oui, c'est l'équation de base de l'œuvre. Hein.
C'est ça, exactement. Et c'est ces dépassements-là, par exemple... Quand je parle de standards aussi, c'est des standards tout à fait physiques. Par exemple, dans le film, Catherine, c'est une femme qui remplit tous les critères standards. C'est une femme blonde, mince, belle. Et en fait, la scène justement dont on a parlé, lavage automatique, On voit le corps de cette femme qui est malmenée, qui est griffée, tordue, qui essaie d'être déformée. Et juste après, on a une scène hyper douce où on voit James admirer ce corps-là. Et je trouve que ça joue énormément sur notre tension à nous, parce que c'est hyper frustrant, je trouve, de basculer d'un extrême à l'autre hyper vite à chaque fois. Et c'est vraiment un truc que j'avais bien aimé. Et après, aussi dans le livre, les moments que j'avais bien aimés, c'était pareil, pour montrer la montée, il y avait ce passage-là, page 47. L'accident avait déchaîné dans mon cerveau ce penchant obsessionnel à évaluer le potentiel sexuel de tout ce qui m'entourait. Et c'est vrai, et après on voit un peu la dégradation, ou gradation, ça dépend de quel point de vue on se place, mais du personnage.
C'est une espèce de révélation aussi, oui. Enfin, c'est la vision du monde et la perception du monde qui est complètement bouleversée.
Oui. C'est ça. Voilà. Après, ce qui m'avait plu aussi, c'était aussi le fait... J'ai décidé d'appeler ça comme ça, mais je sais pas si c'est vraiment ça, mais un peu comme c'était la contagion des fantasmes, dans le sens où ce petit groupe, à la base, c'était une personne, puis deux, puis trois, puis quatre, puis tout le monde semble contaminé par ces fantasmes-là. Et on en a parlé, hein, ça montre un peu aussi en quoi les fantasmes sont différents, et en quoi la projection de ces fantasmes fait que soit on est attiré, soit ça crée des malaises, on se sent bousculé et...
sont un peu visé.
Et voilà, enfin, je veux dire, c'était quand même vachement intéressant parce qu'on peut penser énormément de choses de cette œuvre et ça nous fait aborder plein de questions différentes.
Et je crois que c'est, en nous écoutant, je crois que c'est une œuvre vraiment pour aujourd'hui.
Oui.
Parce que... là, j'écoutais hier, je ne sais pas si vous avez eu l'information, Mark Zuckerberg,
Zuckerberg.
Et là, il va dépenser des millions d'euros pour construire un bunker, le bunker ultime pour la fin du monde.
Ah oui.
Donc le bunker surtechnologique qui permettra de survivre en cas de fin du monde. Et je trouve que ça parle bien de ce monde surtechnologique dans lequel on vit, mais qui cherche le risque zéro, qui nous installe dans une vie complètement normalisée, sécurisée. Et Crash, c'est tout le contraire. Quand on y réfléchit, c'est le désastre technologique. C'est utiliser la technologie pour détruire la technologie, puisque ce sont des crashs, c'est-à-dire il s'agit de détruire, en flirtant avec la mort, en s'engageant dans une expérience radicale dont on ne sait pas l'issue, pour trouver, être à la hauteur de ce que peut être le désir. Quels que soient les risques. Alors, je dis pas qu'il faut en faire un programme, je crois que ce serait un contresens. Ce que décrit le livre ne peut pas être un programme, parce que là, pour le coup, ça deviendrait pervers. Mais c'est quelque chose à entendre, je crois, dans notre monde qui a annulé la notion de risque et qui nous enferme dans une espèce d'habitacle surtechnologique où le désir s'éteint peu à peu. Là, il y a quand même quelque chose à entendre sur le goût du risque, la transgression, les rapports troubles entre le désir et la mort, et une façon d'utiliser la technologie, certes dérangeante, mais qui peut-être peut permettre de maintenir la possibilité du désir. Et je ne suis pas sûr que notre époque puisse tenir cette promesse.
C'est vrai. C'est vrai qu'on en a parlé aussi au niveau... Quand on cherchait, par exemple, d'autres œuvres qui pouvaient mêler cette thématique-là, tout de suite, en fait, on s'est remis en question parce qu'on... De suite, quand on pensait à technologie, on pensait à... par exemple, à tout ce qui touchait au numérique, tout ce qui touchait des micros, alors qu'en fait, finalement, la technologie, c'est bien plus que ça. Enfin, c'est la technique, c'est un outil. Enfin, c'est ce qui va nous permettre de créer autre chose, d'apporter autre chose. Et c'est vrai que dans le crash qu'on s'est rendu compte de ça, que finalement la technologie c'était pas un portable, c'était pas forcément c'était d'autres choses, et que les attirances, enfin tout ce qui peut se rapporter au désir pouvait toucher à cette forme de transformation et était propice seulement à travers quelque chose qui servait à transformer.
Oui.
Voilà. Et ça, tu vois, on avait découvert un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, en 2021, qui s'appelle Titan.
Oui,
tout à fait.
Très... Voilà, dans l'esprit de
Cronenberg.
Oui,
vraiment. qui a été réalisé par Julia Ducournau, qui a aussi réalisé le film Grave, un petit peu avant, qui ont tous les deux reçu un prix, je crois, au Festival de Cannes.
Mais il a beaucoup fait parler Titane.
Oui, mais Titane a surtout fait parler. Titane, c'est une jeune fille qui subit un accident de voiture.
Quand elle est toute petite.
Oui, quand elle est toute jeune. Parce qu'elle était en train de se chamailler avec son père et ils subissent un accident de voiture. Et elle s'en sort pas indemne. Elle a toutes sortes de broches, etc. à l'hôpital. Et elle a une espèce d'implant en titane sur le côté du crâne qui lui laisse une grosse cicatrice. Et en fait, depuis cet accident, depuis qu'on lui a mis cet implant, elle a des pulsions meurtrières. Et aussi une sorte d'attirance pour la voiture, où à un moment, elle est amenée à avoir une relation sexuelle avec sa voiture. Et elle tombe enceinte. Alors ça, c'est assez étonnant. C'était étonnant. Elle découvre parce qu'elle a il y a de l'huile de moteur à la place de perdre les os, elle a de l'huile de moteur qui s'échappe. Donc, ce qui est assez c'est particulier. Et il y a, en fait, il y a encore cette thématique de l'attirance pour la technologie et le fait de devenir technologie.
De l'union, pareil, du corps et du métal.
Ouais, je trouvais que j'avais préféré ce film personnellement parce que oui c'est un peu un slasher, ça découpe un peu, c'est violent, mais c'est une sorte de violence auquel je suis un peu plus sensible dans le cinéma d'horreur. C'est quelque chose qu'on connaît peut-être un peu plus auquel on a plus l'habitude de voir, même si c'est quand même un film qui est assez violent, surtout
ça a vraiment fait beaucoup parler ce film là
Et puis, c'est un côté presque fantastique, le fait de tomber enceinte par une voiture. Je pense que ça dépasse le cadre de la technologie.
Et puis elle accouche d'un...
Oui, d'un bébé voiture. Un bébé en titane. Ouais.
Donc c'était peut-être l'opportunité qu'attendait Catherine, maybe the next one. Oui. Cette fois, c'est la bonne.
C'est peut-être ça, effectivement. C'est bon, on a trouvé l'explication.
Non, mais il me semble que c'était... je pense qu'on retrouve l'esprit de Crash dans Titane, mais je pense que c'est... Enfin, il me semble que...
Il y a une filiation, complètement. Et en même temps, encore un dépassement vers d'autres possibles, dont on... Voilà, on ne pouvait même pas avoir idée.
Mais en plus, l'effet a été le même.
Oui.
L'impact a été le même. Voilà. Non, mais... Après... C'est vrai que quand t'as dit tout ce qui t'avait abîmé dans Crash, je pense que tout est question aussi de nos affects et dans le sens où moi ce qui m'a abîmé par exemple c'était le fait qu'il y ait une forme de délectation envers les plaies, la peau fondue, enfin tout ce que tu veux, et c'était pas forcément quelque chose qui peut nous attirer, et même ça montre en quoi ce qui nous anime diffère et cela nous abîme car on assiste à une forme de projection de désirs qui sont pour nous partiellement connus ou vécus. Après, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont abîmé dans cette œuvre. Et vous, il y a des choses qui vous ont abîmé dans cette œuvre ?
Non, plus animé qu'abîmé. Chacun, moi, il y a des gens à qui j'ai montré ce film qui ont eu des réactions extrêmement violentes, de rejet, de dégoût, mais que je n'ai vu pour qu'un autre film, de rejet radical, parce que ça touche, chacun, vous l'avez dit, chacun réagit avec ses affects, sa libido, son vécu, les choses qu'il connaît, qu'il ne connaît pas de soi, et je pense que c'est un film qui s'adresse aussi à l'inconscient, et donc qui remue, donc c'est l'expérience aussi vaut la peine pour ça. Non, moi ça m'a plus animé qu'abîmé, alors peut-être devrais-je m'en inquiéter. Mais je trouve que c'est un film que je trouve toujours très contemporain. Alors Cronenberg avait ressorti une version restaurée il y a 2-3 ans, et il avait dit à cette époque pour le film, maintenant je trouve que c'est une comédie, Crash. Alors est-ce qu'il a raison, est-ce que ça vaut aussi pour le livre, est-ce que c'est une comédie finalement?
Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est une comédie?
On peut rire de ce qui se passe aussi. Et alors, je sais pas si les personnages rient beaucoup.
Non, je trouve qu'ils sont très très sérieux.
Oui.
Dans tout le long du livre, ils sont quand même très très sérieux, très premier degré.
Il y a presque quelque chose de ritualisé, de religieux. Enfin, il faut quelque chose de très très sérieux.
Dans le livre, oui, mais dans le film, c'est pas du tout la même chose, je trouve.
Tu trouves qu'il...
Dans le film, moi je trouve qu'ils sont plus. Enfin, pas détendus, mais. non, mais je sais pas, ils ont l'air moins apathiques.
Ils se laissent porter par une sorte de courant, de chant. Mais bon. Il rit pas franchement, alors peut-être que.
C'était plus le personnage de Gabriel, je pense, qui m'avait marqué. Qui était plus. Plus démonstrative.
Oui.
Plus,
oui. Non mais oui, je vois de quoi tu parles. Mais...
Par exemple, la scène dans le film où il cherche une voiture et qu'elle monte dans une voiture et que sa jambe reste bloquée.
Oui, c'est un moment très drôle. Oui.
C'est un moment comique. Oui.
C'est très comique et à la fois, c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'est forcément une contagion de fantasmes parce qu'on voit que le mec en face qui le ment, il est là, mais
il sait plus quoi faire.
Il est démuni, à la fois il sait très bien ce qu'il veut, mais c'est pour ça que je trouvais que c'était hyper intéressant. Mais je sais pas d'autre, qu'est-ce qu'il y a à dire, voyons. C'est ça.
Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les thématiques.
Je pense que la dernière chose à laquelle je pense, c'est que c'est une œuvre qui fait beaucoup réfléchir sur l'art.
Oui.
Et dans le sens où, à un moment, quand Vaughan dit c'est une œuvre d'art, et juste après, on a le car et la voiture qui fusionnent, je trouvais ça hyper intéressant parce que ça montrait vraiment que l'artiste, au fond, la communauté, au fond, c'est une bande de petits artistes, au fond, et que ce sont des personnes assez abîmées et qui cherchent à s'extirper des valeurs communes et qui tentent de s'affranchir par n'importe quel moyen. Quoi. Voilà.
Voilà, donc Crash, une œuvre à découvrir, mais bon, une œuvre qui est aussi difficile, mais je pense qu'il est... pas moins intéressant à découvrir, surtout aujourd'hui, parce que visiblement, on peut dire que ça peut être une œuvre actuelle. En tout cas, pour nous, il est important dans cette émission d'insister sur le fait qu'il faut toujours rester curieux et ouvert, même si c'est pas forcément des choses qui sont en adéquation avec nos affects, qui chamboule un peu notre inconscient, comme on en a parlé.
C'est pas forcément un mauvais défaut.
Oui, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission, de proposer des choses différentes, donc qui peuvent parfois nous secouer, mais qui peuvent non moins nous apporter une toute autre vision, et peut-être nous intéresser, nous dire peut-être des choses sur nous-mêmes. En tout cas, merci beaucoup Jacques Brunet-Georget d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Ouais, avec plaisir.
Et d'avoir éclairé notre lecture et d'avoir partagé vos impressions et de nous avoir proposé cette lecture étonnante et très intéressante. Et surtout, nous avoir fait confiance pour ce projet.
Avec plaisir. Merci à vous pour votre invitation.
Voilà, donc nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode. C'était En Marge. Merci beaucoup.
Clap, clap, clap.